Chapitre 7. J'attendais du quartier général des nouvelles par une voie détournée quand je reçus de l'archi-chancelier l'invitation d'aller conférer avec lui sur un objet important. C'était, me dit-il, de la part de l'empereur qu'il était chargé de me faire une communication. L'empereur qui se proposait d'accepter de nouveau mes services désirait qu'au moment où il allait écrire au roi de Naples pour qu'il vînt le joindre à Dresde, je me servisse moi-même de l'intimité que j'avais conservée avec ce prince pour le déterminer à ne pas différer de répondre à l'appel de l'empereur. Je devais lui faire observer qu'il devenait urgent de déployer en Saxe tout l'appareil de nos forces, tous nos moyens militaires et politiques, afin d'amener l'ennemi à conclure une paix honorable pour nous. L'archichancelier me fit lire la lettre de l'empereur, à laquelle il joignit ses propres instances, me répétant qu'il ne formait aucun doute que je ne fusse appelé incessamment à remplir une mission qui ne serait au-dessous ni de mes talents ni de ma dignité. Je répondis à l'archichancelier que j'étais prêt à remplir les volontés de l'empereur, que j'allais écrire au roi de Naples et que je lui communiquerais ma lettre pour qu'il pût en rendre compte. Quoique je ne fusse pas éloigné, d'après quelques antécédents, de m'attendre que je rentrerais bientôt dans une carrière active, je ne savais pas trop sur quoi je devais porter mes idées à cet égard. Je me défiais de l'Italie, qui, au cas de la reprise des hostilités, ne serait pour moi qu'un honorable exil inspiré par la défiance. N'importe, je fis ma lettre à Murat, qui n'était pas non plus dans une position ordinaire. Joachim Murat, franc et brave général, mais roi sans aucune fermeté dans les résolutions, s'était créé à Naples une sorte de popularité et de puissance militaire. Il en était ébloui au point de vouloir secouer le joug de Napoléon, qui ne voyait en lui qu'un vassal à ses ordres. Ce n'avait pas été sans peine que, sur son injonction, il s'était décidé à faire partie de l'expédition de Russie avec un contingent formé de 12 000 Napolitains et d'une partie de sa garde. C'était à lui que Napoléon, en fuyant, avait confié le commandement des malheureux débris de l'armée. Joachim, prévoyant les changements qui allaient s'opérer dans le système politique de l'Europe, résolut de rentrer dans son royaume et de tâcher de le mettre à couvert des suites d'un tel désastre. Il quitta l'armée à Posen et 10 jours après, le moniteur annonça son départ en ces termes « Le roi de Naples étant indisposé a dû quitter le commandement de l'armée qu'il a remis au prince vice-roi ». Ce dernier a plus l'habitude d'une grande administration et il a la confiance entière de l'empereur. Cette boutade officielle blessa d'autant plus Murat que dans le cours des 2 années précédentes, l'empereur lui avait fait trop sentir qu'il n'était qu'un vassal de grand empire. Murat, voyant qu'il aurait à craindre le sort de son beau-frère Louis si l'empereur, réparant son désastre, ressaisissait tout son pouvoir, rechercha l'alliance de l'Autriche, qui ne s'était point encore détachée de Napoléon. Ses premiers rapports avec la cour de Vienne furent ménagés par le comte de Mier, ministre d'Autriche à Naples. Il y eut aussi quelques négociations avec Lord Bentinck, commandant des forces anglaises en Sicile. Joachim et Lord Bentinck eurent même une entrevue secrète dans l'île de Ponza, mais Napoléon épiait Murat. Quand on sut à Naples que l'empereur, resté vainqueur à Lutzen et à Bautzen, rassemblait une nombreuse armée en Saxe, la reine Caroline écrivit à son frère de mieux traiter son époux et usa de tout son pouvoir sur le roi pour rompre ses relations précipitées avec l'Autriche et l'Angleterre. Napoléon écrivit à Murat qui d'abord refusa de se rendre en Saxe. Il lui fit alors écrire une lettre affectueuse par laquelle, au nom de l'empereur, Berthier l'engageait à se rendre au quartier général, l'assurant que peut-être la campagne ne se rouvrirait pas, qu'on allait traiter de la paix et qu'il était d'un grand intérêt pour lui de se rapprocher des négociations afin d'y stipuler ses intérêts. Ma lettre fut à peu près dans les mêmes termes. Je le flattais, j'ajoutais qu'il y aurait de la gloire à acquérir et qu'il était de son honneur de se joindre à ses frères d'armes. Murat n'hésita plus. Avant même qu'il eût pu recevoir ma dépêche, un courrier arrivant de Dresde m'en apporta une de l'empereur qui me mandait à son quartier général. Je jugeai aussitôt que, redoutant ma présence à Paris, pour le moins autant que celle de Murat à Naples, c'était 2 otages qu'il voulait avoir sous la main en nous appelant près de lui. Je fis mes dispositions à la hâte et me dirigeai sur Dresde par Mayence. La garde de Mayence, notre principale clé du Rhin, était confiée à Augereau, avec qui je désirais m'aboucher et qui était chargé en outre de rassembler un corps d'observation sur le Main. Je le trouvais croyant peu à la paix, blâmant Napoléon et plaignant les pauvres Mayençais encore troublés de l'idée d'un siège et de la dévastation des riants environs de leur ville. Voyant qu'il était au fait de tout ce qui venait de se passer, je le fis causer. « Ah, nos beaux jours sont passés, me dit-il. Ah, que ces deux victoires qu'enfle Napoléon, qu'il fait sonner si haut dans Paris, ressemblent peu aux victoires de nos belles campagnes d'Italie, où j'apprenais à Bonaparte la guerre dont il ne sait plus faire que l'abus. Que de peine maintenant pour avancer de quelques marches. À Lutzen, notre centre avait fléchi, plusieurs bataillons se débandaient. En vain, nos deux ailes se prolongeant, menaçaient d'envelopper les forces de l'ennemi qu'il accumulait au centre. Nous étions perdus 116 bataillons de la jeune garde et 80 pièces de canon. Il ne peut plus compter, vous dis-je, que sur la supériorité de son artillerie. Nous leur avons appris à se battre. » Après Bautzen, il a apprécié le passage de l'Elbe et a fait une trouée dans le nord, mais il a fallu s'arrêter devant Würtchen, au-delà de la Spree. Là, nous n'avons emporté les positions et le camp retranché qu'à force de sang. J'ai des lettres du quartier général, et encore après cette horrible boucherie, point de résultat, point de canon, point de prisonniers. Dans un pays entrecoupé, on trouve l'ennemi retranché partout et disputant le terrain avec avantage. Nous avons même été maltraités au combat de Reichenbach. Et notez que dans ce court début de la campagne, un boulet a emporté Bessières en deçà de l'Elbe et un autre boulet a renversé Duroc à Reichenbach. Duroc, le seul ami qu'il eut. Le même jour, Bessières et Kirgoner tombent aussi sous des boulets perdus. « Quelle guerre !» ajoutait Augereau en continuant ses réflexions décourageantes. « Quelle guerre ! Nous y passerons tous. Que veut-il faire maintenant à Dresde ? Il ne fera pas la paix, vous le connaissez encore mieux que moi. Il se fera cerner par 500 000 hommes, car croyez bien que l'Autriche ne lui sera pas plus fidèle que la Prusse. Oui, s'il s'obstine, s'il n'est pas tué, et il ne le sera pas, nous y passerons tous. » Je pus dès lors juger par moi-même de ce qu'on m'avait déjà dit, que l'impatience de la paix et de revenir à Paris était dans l'âme de presque tous les généraux dont la fortune était faite. Dresde me parut à la fois un vaste camp retranché et une ville capitale. Les forêts du voisinage tombaient sous la hache des sapeurs. Partout, en arrivant, je vis remuer la terre, abattre les armes, faire des fossés, des palissades. L'empereur était en course, tant pour examiner les travaux que pour étudier le pays. Il était presque toujours entouré de Berthier, de Soult et de l'ingénieur géographe Baclay d'Albe, parcourant la carte à la main tous les débouchés qui aboutissaient à la plaine de Dresde. La jetée de ponts, le tracé de route, la construction des redoutes et l'assiette des camps étaient aussi le but de ses excursions et de ses promenades. Toutes ces fortifications, toutes ces lignes pouvaient être considérées comme les ouvrages avancés de Dresde, point central d'une forte position sur la rive supérieure de l'Elbe. Les ouvrages sur la rive droite autour de la ville touchaient à leur perfection. Des paysans requis de toutes les parties de Saxe venaient travailler aux travaux. L'empereur faisait compléter l'enceinte de la ville par des fossés et des palissades qui devaient suppléer à toutes les interruptions des murs. Les approches en étaient défendues par une ligne de redoutes avancées dont les feux se croisaient et battaient au loin la campagne. Ne se bornant point à fortifier les environs de Dresde, c'était sur la ligne de l'Elbe dans toute son étendue qu'il venait d'établir l'armée à cheval sur le fleuve, la tête à Dresde et la queue allant aboutir à Hambourg. Les villes de Königstein, Dresde, Torgau, Wittenberg et Magdebourg étaient ses principaux points fortifiés sur l'Elbe. Ils lui assuraient la possession de cette large et belle vallée. Tous ces travaux commencés et poursuivis avec ardeur révélaient assez le projet de Napoléon de concentrer la majeure partie de ses forces aux environs de Dresde et de s'y tenir pour voir venir les événements. Aussi, je le trouvais très occupé de négociations, après avoir choisi les environs de Dresde pour son champ de bataille et la ligne de l'Elbe pour son point d'appui. La plupart de ses généraux considéraient Dresde comme ayant tous les avantages d'une position centrale propre à devenir le pivot de toutes les opérations que méditait l'empereur. Cependant, il y en eut qui m'avouèrent que si l'Autriche se déclarait, nous nous trouverions en l'air exposés à être débordés entre l'Elbe et le Rhin. Il regardait le partage des forces ennemies bien distinctes entre celles comme formant trois grandes masses, au nord, sous la route de Berlin, l'armée de Bernadotte, prince de Suède, à l'est, sous la route de Silésie, l'armée de Blücher, et derrière les montagnes de la Bohême, en observation, l'armée autrichienne de Schwarzenberg. Car déjà, on regardait à l'état-major les Autrichiens comme prêts aussi à se déclarer. Instruit que l'empereur était de retour au palais Marcolini dans Friedrichstadt, je m'empressai d'aller me présenter à son audience. Il me fit entrer dans son cabinet, je l'y trouvai soucieux. « Vous venez tard, monsieur le duc, me dit-il. « Sire, j'ai fait toute diligence possible pour me rendre aux ordres de votre majesté. « Ah, que n'étiez-vous ici avant mon grand débat avec Metternich? Vous l'auriez pénétré. « Sire, ce n'est pas ma faute. Eux, ce gens-là, sans tirer l'épée, voudraient me dicter des lois. Et savez-vous qui sont ceux qui me tracassent le plus aujourd'hui? Vos deux amis, Bernadotte et Metternich. L'un me fait une guerre ouverte, l'autre une guerre sourde. Mais, sire, voyez Berthier, il vous communiquera les résumés de ma chancellerie et vous mettra au fait de tout. Vous viendrez ensuite me donner vos idées sur cette maudite négociation autrichienne qui m'échappe. Il nous faut toute votre habileté pour la retenir. Je ne veux rien pourtant qui compromette ma puissance ni ma gloire. Ces gens-là sont si âpres. Ils voudraient, sans se battre, de l'argent et des provinces que j'ai acquises à la pointe de l'épée. J'y ai mis bon ordre quant au premier point. Narbonne nous a éclairés. Vous verrez ce qu'il en pense. Abouchez-vous avec Berthier le plus tôt possible. Mûrissez vos idées. Je vous attends sous 2 jours. M'étant retiré, il me fut impossible ce jour-là de causer avec Berthier, qui, devenu depuis la mort de Duroc à la fois le confident politique et militaire, ne quittait plus l'empereur et dînait même tous les jours à sa table. Il me renvoya au lendemain. En attendant, une personne du cabinet me mit provisoirement au fait de 2 incidents qui étaient venus obscurcir notre horizon politique et rendre encore plus incertaines les espérances de paix. Je veux parler de la contestation politique du comte de Metternich avec l'empereur, j'y reviendrai tout à l'heure, et de la nouvelle arrivée, le même jour, de l'entière déroute de notre armée d'Espagne à Victoria. Elle laissait Wellington maître de la péninsule et portait la guerre au pied des Pyrénées. Un tel événement connu à Prague ne pouvait manquer d'exercer une fâcheuse influence sur les négociations. L'empereur, étourdi de ce nouveau revers qu'il imputait à l'impéritie de Joseph et de Jourdan, chercha un général capable de réparer tant de fautes. Il jeta les yeux sur le maréchal Soult, alors près de lui dans sa garde. Il lui enjoignit d'aller rallier les troupes et de défendre pied à pied le passage des Pyrénées. Soult n'eût pas hésité si sa femme, arrivée à Dresde depuis peu avec un grand étalage, n'eût témoigné de l'humeur, se refusant à retourner en Espagne où il n'y avait plus, disait-elle, à recevoir que des coups. Comme elle avait sur son mari beaucoup d'empire, Soult, tourmenté, eut recours à l'empereur qui mande aussitôt Madame la Duchesse. Elle vient avec de grands airs, affectant le ton impérieux, et déclare que son mari ne retournera point en Espagne, qu'il n'y a que trop guerroyé, et qu'il est temps enfin qu'il se repose. « Madame, s'écrie Napoléon en colère, je ne vous ai point demandé pour entendre vos algarades. Je ne suis point votre mari, et si je l'étais, vous vous comporteriez autrement. Songez que les femmes doivent obéir. Retournez à votre mari et ne le tourmentez plus. » Il fallut fléchir, vendre chevaux, équipage, et se mettre en route, tristement, pour les Pyrénées occidentales. On riait au quartier général d'une scène où venait de figurer une duchesse altière et qui faisait diversion aux malins propos dont une de nos plus belles actrices, Mademoiselle Bourgoin, avait été récemment l'objet. Appelée à Dresde avec l'élite de la Comédie-Française et invitée un jour au déjeuner de l'empereur avec Berthier et Caulaincourt, elle avait pris, dit-on, tout à coup, en quittant le rôle de Melpomène, le masque d'Hébée, de Terpsichore et de Thaïs. Mais revenons à des faits plus graves. Je conférai enfin avec Berthier, qui avait un pied-à-terre au palais de Brühl. Il serait trop fastidieux de rapporter littéralement les détails de notre long entretien sur la situation politique et militaire de l'empereur à cette époque. Je n'en donnerai ici que la partie essentiellement historique, en y entremêlant quelques aperçus tirés de mes souvenirs. Commençons par la négociation autrichienne. Ce fut Narbonne qui, le premier, écrivit de Vienne vers la fin d'avril qu'il fallait peu compter sur l'Autriche, ayant arraché à M. de Metternich l'aveu que le traité d'alliance du 14 mars 1812 cessait de paraître applicable à la conjoncture. Il appelait une sérieuse attention sur les exigences et les armements de l'Autriche. L'empereur conçut dès lors le projet de neutraliser au moins le cabinet de Vienne, moyennant deux négociations, l'une officielle et l'autre secrète. Il comptait pour amortir l'influence de la coalition du Nord et sur l'empereur son beau-père et sur M. de Metternich. L'empereur s'était fait une fausse idée de cet homme d'État qui avait résidé 3 ans à Paris en qualité d'ambassadeur et qui avait négocié comme principal ministre le traité de Vienne et l'Alliance. C'était, sans contredit, le ministre de l'Europe qui avait le mieux sondé le gouvernement et la cour de Napoléon. Il y était parvenu sans effort par ses hautes relations en offrant successivement des hommages intéressés à Hortense, à Pauline et avec plus de prédilection à la femme de Murat. L'empereur jugea superficiellement un diplomate qui, sous les dehors d'un homme du monde, aimable, galant, livré au plaisir, caché, une des plus fortes têtes de l'Allemagne, un esprit essentiellement européen et monarchique. Encore abusé, même après ses revers, l'empereur s'imagina que des intrigues l'emporteraient à Vienne sur les plus importantes considérations d'État. Telle fut la source de ses erreurs. Quand avec l'épée il crut avoir tranché tous les nœuds de la politique dans les champs de Lutzen et de Wurtchen, il pensa qu'il avait assez fait pour ramener à lui l'Autriche. On lui dépêcha M. de Bougna, qui, tout en le cajolant, ne lui dissimula point que sa cour demanderait en Italie les provinces illyriennes, du côté de la Bavière et de la Pologne une augmentation des frontières, et enfin, en Allemagne, la dissolution de la Confédération du Rhin. Napoléon, regardant comme une faiblesse d'acheter par de pareils sacrifices une neutralité seulement, répondit à la lettre autographe de son beau-père qu'il préférait mourir les armes à la main que se soumettre si on prétendait lui dicter des conditions. L'incertitude sur l'alliance s'étant prolongée après l'armistice, on revit Bougna aller et venir de Vienne à Dresde, de Dresde à Prague, et en fait annoncer que la Russie et la Prusse adhéraient à la médiation de sa cour. Dès lors, on parla de la réunion d'un congrès à Prague. Narbonne y suivit la cour d'Autriche, à peine fut-il dans le voisinage de Dresde qu'il vint y prendre de nouvelles instructions. « Eh bien, lui dit l'empereur, que disent-ils de Lutzen ?»« Ah, sire, répond le courtisan spirituel, les uns disent que vous êtes un dieu, les autres que vous êtes un démon, mais tout le monde convient que vous êtes plus qu'un homme. » Narbonne, observateur profond, ne s'abusait pas du reste sur le pouvoir surnaturel de celui dont il comparait la tête à un volcan. Il faut qu'on sache que la négociation secrète roulait sur 2 conditions. La rétrocession des provinces illyriennes et le paiement d'un subside provisoire de 15 millions comme une faible compensation de ce que l'Autriche refusait, disait-elle, 10 millions sterling que lui offrait le cabinet de Londres pour l'entraîner contre nous. Déjà 10 millions lui avaient été donnés en 2 paiements égaux. Après avoir conféré avec Narbonne, l'empereur décide qu'on s'adressera pour négocier directement à M. de Metternich et que je serai mandé à Dresde comme ayant tenu longtemps les fils des menées secrètes de l'investigation diplomatique. Tandis qu'un courrier m'est dépêché, M. de Metternich arrive, apportant la réponse de son cabinet aux notes pressantes du ministre des Relations extérieures. Il faut d'abord se résoudre à déchirer l'alliance réputée inconciliable avec la médiation. Le ministre d'Autriche ne dissimule pas non plus la prétention de sa cour de se placer entre les puissances belligérantes, pour qu'elles ne communiquent entre elles que par la chancellerie de Vienne. Ici surviennent des difficultés, Napoléon ne voulant point entendre ce mode inusité de négociation. Porteur d'une lettre particulière de son maître, le comte de Metternich vient la remettre lui-même à l'empereur qui le reçoit en audience confidentielle. Ici commence l'altercation. D'abord, Napoléon se plaint qu'on a déjà perdu 1 mois, que la médiation de l'Autriche est presque hostile et qu'elle ne peut plus garantir l'intégrité de l'Empire français. Il se plaint qu'elle est venue arrêter son élan victorieux en parlant d'armistice et de médiation. « Vous parlez de paix, d'alliance, dit-il à M. de Metternich, et tout s'embrouille. La coalition resserre ses liens par des traités que cimente l'or de l'Angleterre. Aujourd'hui, vos 200 000 hommes sont prêts et vous venez me trouver pour me dicter des lois. Votre cabinet veut profiter de mes embarras pour recouvrer tout ou partie de ce qu'il a perdu et pour nous rançonner sans combattre. Eh bien, traitons, j'y consens, mais qu'on s'explique avec franchise. Que voulez-vous ? L'Autriche, répond Metternich, ne veut qu'établir un ordre des choses qui, par une sage répartition des forces européennes, place la garantie de la paix sous l'égide d'une association d'États indépendants. Soyez plus clair, je vous ai offert l'Illyrie, j'ai adhéré à un subside pour que vous restiez neutre. Mon armée est suffisante pour amener les Russes et les Prussiens à la raison. Monsieur de Metternich fait alors l'aveu que les choses en sont au point que l'Autriche ne peut plus rester neutre, qu'elle est forcée de se déclarer pour la France ou contre la France. Poussé dans ce défilé, Napoléon, sans tergiverser, saisit une carte de l'Europe et presse Metternich de s'expliquer. Voyant que l'Autriche ne veut pas seulement l'Illyrie, mais la moitié de l'Italie, le retour du pape à Rome, la reconstruction de la Prusse, l'abandon de Varsovie, de l'Espagne, de la Hollande et de la Confédération du Rhin, ne se possédant plus alors, c'est donc pour en venir au partage, s'écrit-il, que vous vous transportez d'un camp à l'autre. C'est le démembrement de l'Empire français que vous voulez. D'un trait de plume, vous prétendez faire tomber les remparts des plus fortes places de l'Europe, dont je n'ai pu obtenir les clés qu'à force de victoire, et c'est sans coup férir que l'Autriche croit me faire souscrire à de telles conditions, et c'est mon beau-père qui accueille une prétention qui est un outrage. Il s'abuse s'il croit qu'un trône mutilé puisse être un refuge pour sa fille et pour son petit-fils. Ah, Metternich, combien avez-vous reçu de l'Angleterre pour vous décider à jouer un tel rôle contre moi ? À ces mots, l'homme d'État offensé ne répond que par la fierté du silence. Napoléon, confus, reprenant plus de calme, déclare qu'il ne désespère pas encore de la paix. Il insiste pour que le Congrès soit ouvert. En congédiant M. de Metternich, il lui dit que la cession de l'Illyrie n'est pas son dernier mot. Le ministre autrichien ne quitte Dresde qu'après y avoir fait accepter la médiation de sa cour et proroger l'armistice jusqu'au 10 août. Quand on vint demander à Napoléon s'il fallait payer les 5 derniers millions du subside, « Non, dit-il, bientôt ces gens-là nous demanderaient toute la France. » Tel était à mon arrivée à Dresde l'état des affaires. Je ne dissimulais pas à Berthier, dont le jugement était sain et les opinions raisonnables, que je ne formais plus aucun doute que l'Autriche n'entra dans la coalition si l'empereur n'abandonnait pas au moins l'Allemagne et l'Illyrie. J'ajoutais que si on reprenait les hostilités, je présageais les plus grands malheurs, attendu qu'ils n'avaient jamais existé depuis la Révolution contre notre puissance, un principe de coalition plus compact. Berthier partagea ma manière de voir, mais, me dit-il, vous ne sauriez croire combien il faut user de circonspection avec l'empereur. Je l'irriterais sans le ramener par une contradiction ouverte. Je suis forcé d'employer des biais, à moins qu'il ne m'interpelle. Par exemple, depuis que l'Autriche semble vouloir nous faire la loi, nous discutons souvent des plans de campagne dans l'hypothèse de la rupture. C'est là mon terrain. Eh bien, le croiriez-vous, je n'ai pas osé le presser d'abandonner la ligne de l'Elbe pour se rapprocher méthodiquement de celle du Rhin, ce qui nous mettrait à couvert avec toutes nos forces disponibles. Qu'ai-je fait ? J'ai appuyé, sous main, le plan d'un officier général très capable. Plan qui consiste à rappeler tout ce que nous avons par-delà l'Elbe, à réunir tous les corps détachés et à se retirer en masse sur la Saale et de là sur le Rhin. Une considération décisive milite en faveur de ce plan. Admettons que l'Autriche se déclare. Elle ouvrira aussitôt les portes de la Bohême, elle permettra aux alliés de tourner toutes nos positions, en un mot de nous couper de la France. Rien n'a pu faire impression sur l'empereur. « Eh, bon Dieu, s'est-il écrié, 10 batailles perdues pourraient à peine me réduire à la position où vous voulez me placer tout d'abord. Vous craignez que je ne reste trop en l'air au cœur de l'Allemagne. N'étais-je pas dans une position plus hasardée à Marengo, à Austerlitz, à Wagram ? Eh bien, j'ai vaincu à Wagram, à Austerlitz, à Marengo. Comment, vous me croyez en l'air, moi qui suis appuyé sur toutes les places de l'Elbe et sur Erfurt ? Dresde est le pivot sur lequel je veux manœuvrer pour faire face à toutes les attaques. » Depuis Berlin jusqu'à Prague, l'ennemi se développe sur une circonférence dont j'occupe le centre. Croyez-vous que tant de nations différentes conserveront longtemps de l'ensemble dans des opérations si étendues ? Je les surprendrai tôt ou tard dans de faux mouvements. C'est dans les plaines de Saxe que le sort de l'Allemagne doit se décider. Je vous le répète, la position que j'ai prise m'offre des chances telles que l'ennemi vainqueur dans 10 batailles pourrait à peine me rappeler sur le Rhin. Tandis que moi, vainqueur dans une seule journée et me reportant de là sur les capitales de l'ennemi, je délivrerai mes garnisons de l'Oder et de la Vistule et je forcerai les alliés à une paix qui laisserait ma gloire intacte. Au surplus, j'ai tout calculé. Le sort fera le reste. Quant à votre plan de défense rétrograde, il ne peut me convenir. D'ailleurs, je ne vous demande pas des plans de campagne, n'en faites pas. Contentez-vous d'entrer dans ma pensée pour exécuter les ordres que je vous donne. Mais, dis-je à Berthier, si tous les généraux, si tous les chefs de l'armée pensaient comme vous, et je ne doute pas qu'au fond ils ne voient de même, croyez-vous que ce concert d'opposition morale ne déciderait pas l'empereur à ne pas tout compromettre par une obstination ? « Ne vous faites pas d'illusions, » répliqua Berthier. « Les opinions sont bien partagées au quartier général. Parce que nous avons été longtemps victorieux, on s'imagine que nous le serons encore, et on ne voit pas combien les temps ont changé. Voyez d'ailleurs comment l'empereur est entouré. Marais est tout confit dans son système, il ne faut rien en attendre. Si Coulincourt, qui possède sa confiance encore plus que Marais, s'exprime parfois avec franchise et lui dit assez souvent la vérité, il n'en est pas moins obséquieux et courtisan. L'empereur ne consulte guère que ses deux plus bras généraux, Murat et Ney, que sur les champs de bataille, et il a raison. Ses alentours habituels le poussent à la guerre. J'en excepte Narbonne, Flahaut, Druot, Duronel et le colonel Bernard, qui se distinguent par leur manière et dont les opinions rentreraient aisément dans un système raisonnable. Quant à ses autres familiers, surtout Baclay d'Albe, qui s'écarte à la main, le suit partout, ils espèrent comme lui que les alliés feront des fautes et qu'on les écrasera. Ils en parlent avec mépris, comme n'ayant pas de système. Ils ne veulent pas voir que tout a changé depuis notre malheureuse campagne de Russie, que nous leur avons appris à faire la guerre, et que s'ils ne peuvent atteindre à la promptitude, à la précision de nos manœuvres, à la supériorité de notre artillerie, d'autres avantages, notamment celui du nombre, finiront par les faire triompher. Car de même que du temps du maréchal de Saxe, ce sont encore les gros bataillons qui gagnent les batailles. Dites aussi la coopération des peuples qui sont excités aujourd'hui à l'insurrection contre nous et par les sociétés secrètes et par leur gouvernement même. Oui, sans doute, répliqua Berthier, et ajoutez que nous manquons aussi d'espions et d'une bonne cavalerie. Me voilà éclairé, lui dis-je en le quittant. Je vais jeter sur le papier vos données, j'y ajouterai les miennes et demain, avec ce petit arsenal, je verrai l'empereur. Je lui dirai la vérité, comme je l'ai fait à toutes les époques. Mon intention n'était pas de m'engager dans une discussion militaire, ni même dans une dissertation politique approfondie. Je savais d'ailleurs qu'il ne m'en donnerait pas le temps, soit par la brusquerie de son dialogue et de ses interpellations, soit par le ton absolu de son vouloir. J'avais pu juger, dans ma première audience, que deux hommes le préoccupaient essentiellement, Bernadotte et M. de Metternich. Je savais à quoi m'en tenir sur celui-ci. M'occuper du premier était plus difficile, il le fallait pourtant. On m'avait assuré qu'à l'entrevue d'Albo, l'empereur de Russie lui avait dit « Si Bonaparte ne réussit point dans son attaque contre mon empire et que, par suite de sa défaite, le trône de France devienne vacant, je ne vois personne de plus en mesure que vous d'y monter. » Ces paroles, qui servaient à expliquer la conduite de Bernadotte, n'avaient-elles pas été plutôt un stimulant que l'indice d'une conviction intime de la part de l'auguste organe qui les avait proférées? Rien dans l'intérieur n'était préparé alors pour un semblable événement. Que de chance n'aurait-il pas fallu pour le rendre probable? À la suite des désastres de Moscou, il ne pouvait plus être question dans les cabinets d'Europe de substituer un chef militaire au chef militaire de la France. On commençait à se rappeler qu'il y avait une dynastie des Bourbons. L'annonce de la prochaine arrivée de Moreau sur le continent à la suite de Bernadotte éclaircissait bien des obscurités. La première opération de Charles Jean, débarquée à Stralsund avec le corps suédois avant l'armistice, fut de nous reprendre la Poméranie. Quelle allait être sa politique? On le disait toujours accompagné et presque gardé à vue par le général anglais Stewart, le général autrichien baron de Vincent, le général russe Pozzo di Borgo et le général prussien de Krusemarck. Bien des défiances et quelques lueurs d'espoir se groupaient autour de lui. Presque tous les partis étaient représentés à son quartier général et jusqu'à la coterie des mécontents dont Madame de Staël était l'âme. Napoléon venait d'apprendre que, profitant de l'armistice, Charles-Jean sortait de visiter l'empereur Alexandre et le roi de Prusse au quartier général de Reichenbach pour les affermir dans sa résolution de ne pas signer la paix tant qu'il resterait un seul soldat français sur la rive droite du Rhin. Qu'on juge dans quelle disposition j'allais le trouver. Je me prémunis et me présentai au jardin Marcolini. Introduit presque aussitôt, je trouvai l'empereur environné de cartes et de plans. À peine m'aperçoit-il que, se levant, il me parle en ces termes. « Eh bien, monsieur le duc, connaissez-vous notre position ?»«
Oui, sire.
Allons-nous être entre deux feux, entre les obus de votre ami Bernadotte et les bombes de mon grand ami Schwarzenberg ?»«
Selon moi, il n'y a pas là-dessus le moindre doute, à moins de satisfaire l'Autriche. »« Je ne le ferai pas, je ne me laisserai pas dépouiller sans combattre. »
Je le sais, on soulève contre moi toutes les ambitions et beaucoup de passions. Votre Bernadotte, par exemple, peut nous faire beaucoup de mal en donnant la clé de notre politique et la tactique de nos armées à nos ennemis.
Mais si votre cabinet n'a-t-il pas essayé de le ramener à un système moins hostile?
Quel moyen? Il est à la solde anglaise. Je lui ai pourtant fait écrire, et j'ai près de lui un homme sûr, mais la tête lui tourne de se voir recherché et encensé par les légitimes.
Sire, tout ceci me paraît si grave que j'ai pris aussi la plume pour tâcher d'ouvrir les yeux au prince de Suède, qui peut bien venir parader en Allemagne, mais qui, dans aucun cas, ne doit faire la guerre à la France.
Bah, la France, c'est moi.
Que votre majesté daigne me dire que si elle approuve ma lettre, j'y démontre au prince de Suède qu'il se fait l'instrument de la Russie et de l'Angleterre pour le renversement de votre puissance et pour faire revivre la cause des Bourbons.
Je remets ma lettre à l'empereur qui la lit attentivement.
C'est bien, mais par quelle voie la lui ferez-vous parvenir?
Je pense que votre majesté pourrait se servir de l'intermédiaire du maréchal Ney, longtemps l'ami et le compagnon d'armes du prince de Suède, et qui pourrait y joindre ses instances personnelles dans le même but politique, en autorisant à choisir pour émissaire le colonel T.
Non, cet officier a été jacobin.
Sûr, on pourrait y employer le lieutenant de gendarmerie L, dont votre majesté connaît le dévouement et l'intelligence.
À la bonne heure, je lui ferai remettre des instructions et je les dépêcherai à Ney.
Après un silence de 2 minutes, l'empereur, reprenant tout à coup la parole, « Avez-vous réfléchi au moyen de suivre la négociation ?»«
Oui, sire, la voilà. »
L'empereur, après l'avoir lu,
« Quoi ?
Tout vous paraît inefficace ? Vous ne voyez dans mes moyens que des palliatifs, des demi-mesures. Vous vous rangez à l'avis de ceux qui voudraient me voir désarmé, réduit à l'autorité d'un maire de village. Croyez bien, monsieur le duc, que vous ne trouverez pas une égide plus sûre que la mienne.
Sire, j'en suis tellement persuadé que c'est précisément l'un des motifs qui me fait désirer si ardemment de ne plus voir le trône de votre majesté exposé au hasard des batailles.
Mais je ne dois pas le dissimuler. La réaction de l'Europe, arrêtée longtemps par vos glorieux triomphes, ne saurait plus l'être aujourd'hui que par d'autres triomphes plus difficiles à obtenir.
Les mêmes ministres qui étaient toujours prêts à négocier avec votre cabinet, qu'il vous était si facile autrefois de diviser et d'intimider, se vantent aujourd'hui que leur voix ne sera plus étouffée dans les conseils des rois par une politique étroite et imprévoyante. Ils prétendent qu'il s'agit pour eux du salut de l'Europe.
Eh bien, il s'agit pour moi du salut de l'Empire, et certes, je ne me chargerai pas du rôle dont ils ne veulent plus.
Mais enfin, il faut une solution. Si vous ne désarmez pas l'Autriche, ou si elle ne passe pas dans votre camp, vous aurez contre vous toute l'Europe, cette fois unie invariablement.
Le mieux serait l'œuvre de la paix. Elle est possible en abandonnant l'Allemagne pour conserver l'Italie, ou en cédant l'Italie pour conserver un pied en Allemagne.
De fâcheux pressentiments, sire, me préoccupent. Au nom du ciel, pour la gloire et l'affermissement de ce bel empire que je vous aidais à organiser, évitez, je vous en supplie, la rupture, et conjurez, s'il est temps encore, une croisade générale contre votre puissance.
Songez que cette fois, au moindre revers de vos armes, tout changerait de face, et que vous perdriez le reste de vos alliés qui chancellent.
qu'en vous refusant à une défense nationale ce abri contre les revers, vos ennemis se prévaudraient de cette force d'inertie fatale au pouvoir qui s'isole. C'est alors qu'on verrait se réveiller de vieilles espérances assoupies et que l'Angleterre aux aguets verserait à Bordeaux, dans la Vendée, en Normandie et dans le Morbihan ses émissaires chargés d'y relever au moindre événement favorable la cause des Bourbons. Je vous adjure, sire, au nom de votre sûreté et de votre gloire, de ne pas en venir à jouer dans un va-tout ou votre couronne ou votre puissance. Qu'arriverait-il que 500 000 soldats, soutenus en seconde ligne par toute une population insurgée, vous forceraient à déserter l'Allemagne sans vous donner le temps de renouer les négociations? À ces mots, l'empereur, relevant la tête et prenant une attitude guerrière, « Je puis encore, me dit-il, leur livrer 10 batailles, et une seule me suffit pour les désorganiser et les écraser. Il est fâcheux, monsieur le duc, qu'une fatale disposition au découragement domine ainsi les meilleurs esprits. La question n'est plus dans l'abandon de telle ou de telle province, il s'agit de notre suprématie politique, et pour nous, l'existence en dépend. Si ma puissance matérielle est grande, ma puissance d'opinion l'est bien davantage. C'est de la magie, n'en brisons pas le charme. » Pourquoi tant d'alarmes? Laissons se produire les événements. Quant à l'Autriche, personne ne doit s'y tromper, elle veut profiter de ma position pour m'arracher de grands avantages. Au fond, j'y suis presque décidé, mais je ne me persuaderai pas qu'elle consente à m'abattre tout à fait, à se livrer ainsi elle-même à la toute-puissance de la Russie. Voilà ma politique, et j'entends que vous me serviez de tous vos moyens. Je vous ai nommé gouverneur général de l'Illyrie, et c'est vous, vraisemblablement, qui en ferez la remise à l'Autriche. Partez, passez à Prague, nouez-y vos fils pour la négociation secrète, et de là, dirigez-vous à Graz et sur l'Eibach, d'où vous suivrez mes affaires. Allez vite, car ce pauvre Junot que vous remplacez est décidément fou allié, et l'Illyrie a besoin d'une main sage et ferme. Je suis tout prêt, sire, à répondre à la confiance dont vous m'honorez, mais si j'osais, je vous ferai observer que l'un des principaux mobiles de la négociation secrète serait, sans aucun doute, indépendamment de la rétrocession des provinces, la perspective de la régence, telle que l'a organisée votre majesté dans toute sa latitude. Je vous entends bien, et bien dites tout ce que vous voudrez là-dessus, je vous donne carte blanche. Je ne songeais plus dans la supposition d'une nouvelle rupture qu'à tirer parti pour l'intérêt de l'État de ma nouvelle position. D'ailleurs, la négociation secrète avec l'Autriche me semblait sans objet du moment où l'empereur ne faisait point à ce cabinet les concessions sans lesquelles il ne pouvait le retenir dans ses intérêts. Or, ma mission n'était à l'égard de l'Autriche qu'un leurre et envers moi qu'un prétexte pour m'éloigner pendant la crise du centre des affaires. L'empereur avait deux autres buts. D'abord, de tenir le plus longtemps possible encore la cour d'Autriche en suspens et d'y alimenter un parti tout prêt à se rapprocher de lui si, en cas de rupture, il parvenait par quelque grande défaite à disloquer la coalition du Nord. En second lieu, il avait à cœur de me faire traverser la monarchie autrichienne d'un bout à l'autre pour me rendre à mon gouvernement, persuadé que je n'y jetterais pas en vain un coup d'œil d'observation. Berthier m'avoua que telle était l'intention de l'empereur, qu'il désirait même que je m'arrêtasse à Prague autant que possible pour me concerter avec Narbonne et y pénétrer les vues ultérieures de l'Autriche. Il ne manqua pas de faire ressortir les grands pouvoirs dont j'étais investi dans les provinces illyriennes, le pouvoir qui, à la fois civil et militaire, me conférait une sorte de dictature. Mais je savais à quoi m'en tenir sur cette Illyrie, soit que la guerre se rallumât, soit que cette province fût rétrocédée à l'Autriche. Quant à mon séjour et à mes observations à Prague, je jugeais qu'à moi plus qu'à tout autre, il ne convenait ni de prolonger l'un, ni d'étendre les autres au-delà des limites que prescrivaient les convenances. Je voulais pourtant m'arrêter à un plan raisonnable et utile, car je ne connais rien de pire que d'agir dans le vague. Ne pouvant rien sur l'état politique existant, je combinais mes idées sur un avenir probable. L'empereur me dit « je dois succomber devant une confédération générale. Il peut périr les armes à la main ou être atteint par un décret de déchéance à la suite de nouveaux revers qui dissiperaient tout à fait le prestige de sa puissance. » Malgré l'égoïsme, l'aveuglement et même la lâcheté qui règne parmi les principaux fonctionnaires de l'État, il est impossible que des idées de haute conservation ne viennent pas à germer dans quelques-unes des premières têtes de Paris. Ceci peut amener une de ces révolutions que la gravité des circonstances et les exigences de l'opinion déterminent. Il peut y avoir urgence, car si l'Angleterre, l'âme de cette coalition nouvelle, en prend la direction politique, on verra renaître des chances en faveur des Bourbons. Je n'ai pas besoin de dire que mes antécédents ne me permettaient pas de diriger mes vues de ce côté, en supposant même que le renversement de l'Empire, et peut-être m'imputera-t-on d'être trop sincère, en avouant que dans les hauts emplois, les Bourbons n'auraient trouvé, pendant les 6 derniers mois de 1813, que bien peu de fonctionnaires influents sur lesquels ils pussent raisonnablement compter. En effet, tous les intérêts de la Révolution qui se détachaient de l'empereur, ceux même des royalistes qui s'étaient incorporés dans le gouvernement impérial, devaient d'abord chercher à se rallier sous le pouvoir de la régence dont Napoléon avait lui-même posé les bases si quelques hommes habiles se trouvaient en mesure d'en préparer la transition en cas de revers. Mais il était clair qu'il ne fallait pas attendre que tout fût désespéré. L'Autriche avait un grand intérêt à voir s'établir une régence sous l'égide d'une archiduchesse et à soutenir un système qui, l'alliant à la France réconciliée avec l'Europe et réduite à ses limites naturelles, les Alpes et le Rhin, lui permit tout d'abord de balancer la trop grande prépondérance qu'allait acquérir la Russie. Ce fut sur ces bases que je combinai mes idées et je les rédigeai dans un mémoire où j'établis l'hypothèse d'une régence effective dont on pouvait laisser entrevoir l'éventualité aux hommes d'État. D'après mon plan, tous les intérêts devaient être représentés dans le conseil de régence. J'en faisais naturellement partie, ainsi que messieurs de Talleyrand, Narbonne, Macdonald, Montmorency et 2 autres personnes que je puis me dispenser de désigner. Quant à l'ambition des maréchaux, elle eût été satisfaite par l'érection de grands gouvernements militaires qu'ils auraient eu en partage et qui eussent accru leur influence dans l'État. En un mot, la régence, selon mes idées, aurait concilié tous les intérêts et toutes les opinions. D'oppresseur qu'il était, le gouvernement serait devenu protecteur et sa forme eût été une monarchie tempérée par le mélange d'une aristocratie raisonnable et d'une démocratie représentative. C'était, sans contredit, le plan le plus approprié à la gravité des circonstances, puisqu'il pouvait préserver la France du double danger de l'invasion et du démembrement. J'étais plus que fondé à croire qu'il serait accueilli par l'homme d'État, alors que le régulateur de la politique autrichienne, dont je connaissais la solidité du caractère et la profondeur des vues, de M. de Metternich, enfin. Sa bienveillance pour moi remontait à la déclaration de guerre de l'Autriche en 1809. À cette époque, l'empereur m'ordonna de le faire enlever, contre toutes les convenances de la diplomatie, par une brigade de gendarmerie pour être conduit et ainsi escorté jusqu'aux confins de l'Autriche, en ajoutant à ce procédé toutes les duretés qui pouvaient le rendre plus injurieux. Révolté de ce traitement inouï, je pris sur moi d'en adoucir les formes. J'ordonnai qu'on m'amenât ma voiture, je me fis conduire chez l'ambassadeur, je lui exposai le motif de ma visite et lui exprimai combien j'en éprouvais le regret. De là, quelques épanchements mutuels, assez du moins pour que nous puissions nous comprendre. Ayant demandé au maréchal Moncey, un capitaine de gendarmerie, qui sut tempérer par l'aménité et la politesse de ses manières ce que sa mission avait d'outrageant, je lui commandai de monter dans la chaise de poste de l'ambassadeur à qui j'accordais tous les délais convenables. En nous séparant, il me témoigna combien il était sensible aux égards et aux ménagements que j'avais employés dans cette occasion. Mes idées étant donc fixées, comme on l'a vu plus haut, pressées d'ailleurs par l'empereur et par Berthier, je me mis en route avec monsieur de Chassenon, auditeur près l'intendance générale de la Grande Armée, et me dirigeai vers la ville de Prague, non sans avoir été rendre hommage, avant mon départ de Dresde, au vénérable souverain de Saxe, qui se vouait avec tant de persévérance à la cause française. J'avais pu remarquer combien les Saxons gémissaient de voir ainsi leur roi engagé dans les intérêts de Napoléon et combien ils prévoyaient qu'il en pourrait résulter de malheur. J'arrivais à Prague au moment où l'on croyait toucher à l'ouverture du congrès sur lequel je ne fondais aucune espérance et qui, à mes yeux, n'était qu'une de ces représentations diplomatiques imaginées pour justifier l'emploi de la force. Monsieur de Metternich et les plénipotentiaires de la Russie et de la Prusse venaient d'y arriver. Toute la chancellerie autrichienne y était établie. Des 2 plénipotentiaires français, Narbonne fut le seul que j'y trouvais. Il attendait Caulaincourt et avait ordre de ne rien faire sans son collègue. Déjà quelques difficultés précédaient la réunion du Congrès. Napoléon venait de se déclarer contre la nomination de M. Danstedt, plénipotentiaire de Russie, français né en Alsace, et qu'il signalait dans son moniteur comme un agent de guerre très actif. Outre ces altercations, on s'attendait que la question de forme arrêterait, dès les premiers jours, la marche des affaires. Napoléon s'était expliqué avec Narbonne dans le même sens qu'avec moi. « La paix que je ne veux pas faire, lui avait-il dit, est celle que mes ennemis veulent m'imposer. Croyez-moi, celui qui a toujours dicté la paix ne peut pas à son tour la subir impunément. Si j'abandonne l'Allemagne, l'Autriche combattra avec plus d'ardeur jusqu'à ce qu'elle obtienne l'Italie. Si je lui cède l'Italie, elle s'empressera pour cela garantir de me chasser de l'Allemagne. » La seule instruction positive qu'eut encore reçue Narbonne était de chercher à ne pas mettre l'Autriche dans une position ennemie. Je lui communiquai les intentions de l'empereur relativement à la négociation secrète et il n'en augura pas mieux que moi. Je me trouvais à Prague dans une sphère nouvelle et sur un terrain qui m'était inconnu. On savait que je n'y venais qu'en passant. Il me fallut user de certains ménagements pour m'aboucher avec le chef de la chancellerie autrichienne. Je trouvais partout les mêmes défiances à l'égard de Napoléon et des griefs plus ou moins fondés. On m'assura, par exemple, que dès le mois de décembre 1812, il avait fait offre d'abandonner à l'Autriche l'Italie, les provinces illyriennes, la suprématie de l'Allemagne, et enfin de rétablir l'ancienne splendeur de la cour de Vienne. Mais qu'aussitôt qu'il s'était vu en état d'ouvrir une nouvelle campagne, il avait tout éludé, se bornant à ne plus céder que de minces avantages qui ne pouvaient entrer en compensation de ce qui se présentait naturellement à l'Autriche pour reprendre en Europe son rang et sa prépondérance. Le cabinet de Vienne voulait évidemment profiter de l'affaiblissement de notre puissance pour recouvrer ce qu'il avait perdu par la paix de Presbourg et par celle de Schönbrunn. Il n'attachait que peu d'intérêt à la rétrocession de l'Illyrie, qui ne pouvait manquer, au premier coup de canon, de rentrer dans son vaste domaine. J'appris à Prague que la coalition du Nord venait de se déclarer contre la Confédération du Rhin à l'ouverture même de la campagne, et que, dès le 25 mars, le maréchal Kutuzov avait annoncé, dans une proclamation publiée à Kalisch, que la Confédération du Rhin était dissoute. C'était une sorte de sanction offerte d'avance à toutes les défections des troupes allemandes employées dans nos armées. J'appris également que les conférences de Reichenbach venaient d'être reprises à Trachenberg, que l'empereur de Russie, le roi de Prusse et le prince royal de Suède y assistaient, de même que M. de Stadion pour l'Autriche et Lord Aberdeen pour l'Angleterre, ainsi que les généraux en chef de l'armée combinée. Là, on déterminait les forces que les puissances coalisées allaient consacrer à la guerre la plus active contre Napoléon. Là, on concertait leurs mouvements, l'agression et l'offensive. Enfin, on indiquait le rendez-vous des trois grandes armées dans le camp même de l'ennemi. Il était impossible de ne pas y voir un accord de toutes les parties contractantes qu'allaient cimenter des traités de partage et de subsides. Cependant, on était décidé à ouvrir le Congrès, mais pour y renfermer Napoléon dans le cercle de Popillius. Bien que non admise ouvertement aux conférences, l'Angleterre devait en être l'âme et elle allait en diriger les négociations. Ainsi, plus de doute que l'Autriche ne fût à la veille de compléter son accession à la Confédération du Nord en y portant 200 000 hommes de troupes en première ligne. À tout ce que nous essayions d'alléguer confidentiellement pour l'en détourner, elle répondait qu'elle pouvait à peine trouver dans Napoléon l'assurance de n'être plus exposée à de nouvelles spoliations, tandis que l'état des affaires lui promettait davantage. Tous mes efforts pour renouer la négociation secrète furent infructueux. Quant à mes vues particulières ayant pour objet la garantie future de notre établissement politique, on me laissa bien entrevoir que le plan d'une régence dans l'intérêt de l'Autriche pourrait influer sur les déterminations de sa politique, mais seulement lorsque des suppositions seraient converties en réalité. Je ne pus faire prendre engagement provisoire sur un ordre de choses éventuelles. J'obtins seulement l'assurance qu'on ne commencerait que par la destruction de la puissance extérieure de Napoléon et que l'Autriche refuserait de se prêter à l'exécution d'aucun projet de bouleversement dans l'intérieur. Je ne dois pas oublier de dire que parmi les griefs qui me furent présentés par la chancellerie autrichienne, je remarquai les reproches qu'elle faisait à Napoléon au sujet des diatribes de son moniteur et de certains articles insérés dans d'autres journaux. Je m'éloignais de Prague avec plus de lumière sans doute, mais sans avoir trouvé aucun élément de garantie pour l'avenir. Au contraire, j'en emportais la triste conviction qu'un million de soldats allaient décider du sort de l'Europe et que, dans ce grand conflit, il serait bien difficile de stipuler à temps tous les intérêts que j'avais combinés et qu'aucune diplomatie ne mettait encore en première ligne.